qui ont été rapportés par Omar ibn Abdelaziz, en fait, pour montrer qu'il était un grand ulama de l'islam. Et il va là que Dieu a décrété qu'il devienne calife. D'abord, on n'a pas peut-être de rentrer dans les détails. De toute façon, en tout cas, il était le fils d'Abdelaziz ibn Marwan. Il s'est marié à la fille du calife qui était son oncle. Je disais que son oncle, le calife, était Abdul Malik ibn Marwan. Sa fille Fatima, qui était également reconnue pour sa piété. J'ai visité à Damas il y a quelques années. Je ne sais pas si les frères qui sont là, qui ont fait Damas, ont eu l'occasion de voir ce que j'ai vu. Quand vous visitez aujourd'hui la mosquée des Omeyyades à Damas, vous verrez parmi les minarets de la mosquée, un minaret qu'on appelle Mizanatul Arous, le minaret de la nouvelle mariée. C'est un minaret dont la construction a été financée par la dot que Omar ibn Abdelaziz a enlevée pour cette femme-là. Elle a utilisé sa dot pour construire un minaret à cette mosquée. Et ce minaret porte justement son nom. Elle était très pieuse également. Bref, à la mort de son oncle, il a laissé un message écrit, fermé dans une enveloppe qu'on ne devait ouvrir qu'après l'avoir enterré, pour désigner son successeur. Il avait des fils, il avait de grands garçons, des princes, qui se frottaient les mains. Pour eux, c'est eux qui allaient prendre la succession de leur père. Mais à leur grand étonnement, quand on a ouvert l'enveloppe, c'était le nom de Omar ibn Abdelaziz qui était là, dans l'enveloppe. Et voilà, il est devenu donc calife. Lui-même, il ne s'attendait pas à cela. Si vous rentrez dans les détails de sa vie, vous verrez des choses très, très étonnantes sur la vie de cet homme. Parce que dès qu'il a appris l'information, il s'est mis à pleurer. Et il a dit que le califat va le tuer. Parce que c'est une lourde responsabilité. En tout cas, il a commencé à faire des réformes. D'abord, tous les biens qui ont été usurpés par les princes, a commencé par ses propres parents, dont une de ses tantes. Il les a remis à leurs propriétaires. Il a revu le trésor public. En ce moment, ça a coïncidé avec son ascension au pouvoir. Sa prise du califat islamique a coïncidé avec l'acheminement des armées musulmanes d'Andalousie vers la Gaule, vers la France, pour aller combattre contre Charlemagne. C'était cette période-là, avec les Rolands et autres, vous connaissez peut-être l'histoire. C'est lui qui a donné ordre aux armées musulmanes de se replier, de ne pas continuer. Donc, ici, nous avons un témoignage de l'histoire, c'est-à-dire une autre version de l'histoire. Au lieu que ce soit les musulmans aient été, comme ils le disent, battus par Charles Martel à Poitiers, la version de l'islam nous dit que c'est Omar ibn Abdelaziz qui a donné ordre aux armées musulmanes de se replier. Ce jour-là, aucune armée ne pouvait faire face aux armées musulmanes. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'empire est trop vaste. Imaginez-vous, la capitale est à Damas. Regardez une carte. L'État s'étendait du Portugal jusqu'à l'Inde. Un seul État, une seule entité géopolitique. Du Portugal et de l'Espagne, qui était l'Andalousie, le sud de la Gaule, toute la mer Méditerranée, l'Afrique du Nord, l'Arabie, vous dépassez l'Inde pour aller presque aux frontières de la Chine. Tout cela était un seul État. Il a dit non, parce que ces princes-là, semble-t-il, ils faisaient des conquêtes parce qu'ils avaient faussé le système de l'islam. En islam, on ne va pas conquérir pour conquérir. Ce n'est pas l'hégémonie, mais c'est pour diffuser le message de l'islam. Donc il a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. Les autres, peut-être, ils allaient conquérir pour avoir des biens. C'était des princes, ils avaient beaucoup de dépenses. Il fallait donc s'entretenir. Il faut conquérir des terres, prendre des richesses et garder les privilèges. Il a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça, donc il a demandé à l'armée de se replier sur l'Andalousie. Alors, il a refait donc, redistribué, il a analysé, il y avait des dissensions au sein du monde musulman, sur le plan dogmatique. Il y avait les chiites, il y avait les kharijites, il y avait ceci. C'est un ouléma, il a invité tout le monde. Il leur a dit, venez, nous allons discuter. Il a appelé les chiites, il a discuté avec eux, il les a convaincus. Il a discuté avec les kharijites, même chose. Avec les mu'tazilites, même chose. Il a réussi à les convaincre, donc il a ramené l'unité, la stabilité dans l'État islamique, sur le plan politique, sur le plan dogmatique, sur le plan idéologique. Sur le plan économique, il a réussi un coup de maître qui a été enregistré par l'histoire. D'abord, il a éduqué son peuple parce qu'il était le premier exemple. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, « Adnasu ala din mulukim ». Les êtres humains, les gens sont sur la religion de leur souverain, de leur roi. Lorsque vous avez un dirigeant qui est intègre, forcément ça va se répercuter sur la population. Si c'est un dirigeant qui cultive la science, qui est lettré et qui encourage les lettres, toute la population va se diriger vers ça. Si c'est un ignorant, les gens vont tomber dans l'ignorance. Si c'est un injuste, c'est l'injustice. S'il est corrompu, les gens seront corrompus. Ça, c'est une logique connue. An-nasu ala dini mulukim. Les gens sont sur la religion, c'est-à-dire sur l'option de leur dirigeant. Sauf dans des cas peut-être exceptionnels. Alors, ainsi donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éduqué le peuple, la communauté musulmane. Parce que dans l'éducation de la communauté musulmane, il y a le fait de leur enseigner, de leur donner le sens de la dignité, qui est extrêmement important. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a une prolifération de la mendicité, c'est parce que les gens ont, entre autres, perdu le sens de la dignité. Parce que quelqu'un peut avoir les moyens pour subvenir à ses besoins pendant les 24 heures, par exemple, ou une semaine. Mais il trouve que ça ne suffit pas, il faut qu'il aille mendier. Il y a le problème donc de la dignité. Et ça vient de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information. Parce que l'islam nous enseigne cela et nous l'inculque. L'islam nous dit que quiconque ouvre sur lui la porte de la mendicité, Dieu ouvre sur lui la porte de la pauvreté. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque s'adonne à la mendicité, le jour de la résurrection, il viendra, il sera ressuscité, parce que le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités sur l'attitude, le comportement qu'ils ont adopté dans l'ici-bas. Ceux qui se sont adonnés à la mendicité, le jour des comptes, ils seront ressuscités et ils n'auront pas de chair sur le visage. Leur visage sera un visage osseux. Parce que c'est la honte, le fait de se promener et de mendier, de venir s'arrêter devant les gens et de dire de donner, c'est une honte, ça fait honte. Et justement, le paroxysme de cette honte-là, la personne ne peut pas regarder les gens. Il baisse la tête parce que son visage, il n'est pas agréable de voir le visage. Le visage est osseux. Ça, ce sont des mises en garde. C'est une éducation que l'islam donne aux musulmans. Pour leur dire que non, la mendicité, ce n'est pas la voie de la dignité. Ce n'est même pas la voie de la richesse. Parce qu'en ouvrant la porte de la mendicité sur soi, on ouvre sur soi, par la même occasion, la porte de la pauvreté. Donc l'islam nous inculque le sens de la dignité et de l'honneur. Un musulman doit être digne. Il doit avoir son honneur. Il doit préserver par tous les moyens son honneur. Au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque meurt en défendant son honneur devient un martyr. N'est-ce pas? Alors, il a donc éduqué le peuple au point que la zakat qui était prélevée sur les biens des riches, l'histoire rapporte qu'on se promène de l'Andalousie, c'est-à-dire de l'est à l'ouest de son empire, du nord au sud, on cherche des gens pour prendre la zakat, il n'y en avait pas. Pas forcément parce que les gens sont à 100% riches matériellement, mais qu'il y a également la richesse spirituelle. Parce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Laysa al-ghina min kathrati al-ard, laysa al-ghina min kathrati al-ard, walakin al-ghina ghina al-nafs. » La richesse ne se mesure pas en termes de biens matériels, mais il y a aussi le critère spirituel, c'est-à-dire la richesse de l'âme. On se sent riche, on se sent indépendant de quelque chose. On cultive ou bien on rompe la dépendance entre soi et autre chose, au point que on préserve donc sa dignité. Vous pouvez trouver deux personnes, un qui est riche, plus riche que l'autre, mais quand vous proposez quelque chose aux deux, un peut dire que celui le moins riche matériellement peut dire que lui ça va, il s'en passe. C'est pourquoi le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, même si vous donnez une mine d'or à quelqu'un, il va demander une deuxième mine d'or et une troisième. Il ne sera jamais rassasié. Il n'y a que la terre, c'est-à-dire la terre de la tombe qui peut remplir le ventre de Ibn Adam, d'un Adaméen. Sauf les gens que Dieu a choisis dans sa miséricorde. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Alors, ainsi donc, il a pu éduquer les gens. D'abord, il a fait deux actions. Première action, il a éduqué les gens pour leur dire que personne ne prenne la zakat s'il n'est pas véritablement dans le besoin impérieux de le prendre. Deuxièmement, il a prélevé la zakat et il a refait une répartition équitable au sein de la communauté. Donc, il a fait deux actions. Une action économique et une action d'éducation et de sensibilisation. Et ce n'est pas tout. Il a donné l'exemple au point que, selon les règles de l'islam, il est autorisé, le chef de l'État, il lui est autorisé, il lui est possible d'avoir un salaire. Parce qu'il est au service de la communauté, il travaille. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq est devenu calife, le lendemain, il a pris ses bagages, ses marchandises, il voulait aller au marché pour aller faire ses ventes et ses achats. On lui a dit, mais le calife, tu es notre calife, comment tu vas aller au marché encore? Il dit non, il faut qu'il mange de ses propres mains, qu'il prenne ce qui est licite. On lui a dit non, nous on te met à l'abri de cela, l'État, l'islam te permet d'avoir un salaire qui te met à l'abri de tout cela, un salaire de ce qui te suffit, toi et les membres de ta famille, des domestiques, une voiture, c'est-à-dire Al-Markaba. À l'époque, ce n'était pas la voiture, mais c'était une monture, n'est-ce pas, qui, de son rang, un cheval, un chameau, etc. Donc, on le met, le chef de l'État, dans les conditions optimales qui lui permettent, n'est-ce pas, d'assumer sa responsabilité. Mais Omar ibn Abdelaziz, lorsque il a senti sa mort prochaine, il était dans la maladie de sa mort, ses enfants étaient là, on lui a dit, Amir al-Mu'minin, tu peux prélever quelque chose dans le budget, le trésor, l'islam te le permet, dans le trésor de public, pour mettre à la disposition de tes enfants, pour qu'ils ne soient pas dans le besoin après toi. Il a juré qu'il ne le ferait jamais. Il a dit même à ses enfants, qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous que je vous donne du bien des musulmans, du trésor public, de la propriété des musulmans, pour que vous soyez à l'aise et que moi je sois en enfer, ou bien que vous restez sans rien et que moi j'aille au paradis? Lequel préférez-vous? Ils disent qu'ils ont dit, puisqu'ils ont été bien éduqués par leur père, qu'ils préfèrent évidemment que leur père aille au paradis et qu'il reste les mains vides. Donc il n'a rien laissé à ses enfants. Et l'histoire a rapporté un témoignage extrêmement important, dont nous avons d'ailleurs l'illustration dans le Coran. On rapporte que, parce que quand il est mort, ce sont des califes, ce sont les frères ou ses cousins, c'est-à-dire les enfants du calife qu'il a désigné, c'est eux qui ont pris la place. Et ils ont recommencé la même chose. Il était donc l'unique exception d'un leadership de droiture et de piété parmi les Omeyyades. Quand il est mort, les autres ont repris la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quelques années après, parce que la dynastie Omeyyade n'a pas duré plus de 100 ans, c'est à peu près un siècle. Après, évidemment, il y a eu des problèmes, c'est la corruption, tout ça, et une autre dynastie a pris la place, qui est venue d'ailleurs dans la violence, c'est presque un coup d'État qui a été fait, ils ont été même poursuivis, persécutés, même exécutés. Alors, il y a eu donc un renversement de la situation, les Omeyyades ont été balayés, les Abbasides ont pris la place. Ces princes-là qui ont remplacé Omar ibn Abdelaziz, leurs enfants, le témoignage de l'histoire rapporte que les enfants de Omar ibn Abdelaziz, à qui il avait refusé de laisser même un sou, on a vu que c'est des gens, beaucoup de personnes, des richards ou en tout cas les gens de la population qui aimaient ses enfants, qui ont donné des chevaux, des richesses et des tas de choses à ces enfants-là. Tandis que les autres, dont les pères ont ramassé, ont détourné les biens publics, pour enrichir les enfants, on les a vus marcher à pied. Donc l'histoire a apporté cela en guise de témoignage. Donc c'est ainsi à peu près que Omar ibn Abdelaziz, on peut vous raconter certains de ses aspects, de quelques petits détails. Par exemple, il était tellement à cheval sur la bonne gestion des affaires publiques que chez lui, à l'époque, il n'y avait pas de lampe électrique. Il y avait des lampes tempêtes que l'on faisait fonctionner sur, n'est-ce pas, le pétrole ou l'huile. Il fonctionnait à l'huile. Lorsque la nuit, il travaille pour l'État, par exemple, il a des choses à faire, il n'a pas fini de voir des dossiers, il se met à travailler la nuit. Quand c'est pour l'État, il allume la lampe de l'État, qui est alimentée par l'huile de l'État. Dès qu'il finit le travail de l'État, et que maintenant il travaille pour lui-même, il éteint la lampe de l'État et il allume la lampe à lui-même, sa propre lampe qui est alimentée par lui-même, par ses propres frais. Alors imaginez-vous de quelqu'un de cette envergure. Et ce n'est pas tout. Ce n'était pas tout. Après sa mort, les gens étaient venus interroger sa femme. Parce que c'était un homme d'une très grande piété, effectivement. Les gens ont interrogé sa femme. Moi, je crois qu'il est bon pour vous de voir le film. Il y a un film qui a été fait. Évidemment, le film, c'est à peu près. Ça ne donne pas tellement ce qu'il faut. On prend juste quelques aspects. Mais il y a un film sur Omar ibn Abdelaziz. Alors, on est venu interroger sa femme sur la vie. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait de particulier pour avoir fait preuve de tout, pour avoir eu tout ce que Dieu lui a donné? Sa femme est venue à témoigner. Sa femme a dit, je jure par Dieu, il ne fait pas plus que ce que vous faites. La nuit, il se lève, s'il peut faire 2 rakas, 4 rakas, 5 rakas, 10, 11, 13 rakas, il les fait. Comme ce que vous faites. Mais c'est le contenu peut-être qui est différent. Là, c'est ce que la femme a dit. La femme a dit, moi qui suis son épouse, je sais, je l'ai vu la nuit, dans une seule raka, lire tel nombre de sourates, et dans ses prosternations, je l'ai vu pleurer jusqu'à l'aube, de crainte de Dieu. Donc c'est le contenu de la prière qui compte. Vous pouvez faire les mêmes nombres de raka, mais votre proximité de Dieu peut être de la différence qui se trouve entre les cieux et la terre. C'est ça qui importe. Donc c'est ce genre de dirigeant qu'il faut pour la communauté musulmane. Et il a fait des miracles, effectivement, pendant son temps. Alors telle est donc un peu une idée sur la vie de Omar ibn Abdelaziz. Et quand il était mort, bon, je vais vous dire qu'il avait été empoisonné par ces mêmes gens qui voulaient prendre sa place. Et il l'a su. Des gens étaient venus. Il était pressé de rencontrer Dieu. Il était très pieux. Il l'avait dit au début, il a dit que le califat va le tuer parce qu'il va amener des réformes impopulaires qui vont faire que les gens soient contre lui et qu'il ait des ennemis. Et il a dit, il est sûr qu'il sera tué par le califat. Alors, quand il a senti sa mort prochaine, on lui a dit, Amir al-Mu'minin, on peut te soigner, il y a des soins, il y a des médicaments pour ce genre de maladie. Il a dit non. Wallahi, même si c'est pour prendre sa main, de là pour le toucher sa tête qui va lui donner la santé, il ne le chercherait pas. Il veut rencontrer Dieu. Et voir quelqu'un qui comprend Dieu. Il a demandé, lorsqu'il a vu donc qu'il devait mourir, il a demandé l'autorisation au propriétaire d'un jardin, d'un champ, de lui prêter pendant 3 ans, je crois, je n'ai pas exactement la date, mais ça se trouve dans le livre, pour qu'il lui donne un petit espace où on va l'enterrer dans son champ. Et que 3 ans plus tard, il peut niveler la terre et faire sa culture sur la tombe, sans aucun problème. Allahu Akbar. Et regardez la différence. Dans le livre, on a amené la comparaison entre Omar ibn Abdelaziz, qui est venu presque un siècle après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Amr ibn al-As, qui a été un des compagnons du prophète. Vous connaissez les péripéties qu'il a eues, le premier groupe d'émigrés qui sont partis en Abyssinie, sous la direction de Jaafar ibn Abi Talib, qui avait été poursuivi par Quraysh. C'était Amr ibn As qui dirigeait la délégation de Quraysh, des polythéistes, pour aller dire aux négus d'Abyssinie de ne pas les recevoir. Il n'était pas encore musulman. Bon, certainement qu'il a pensé à tout cela. Lors de sa mort, il a demandé qu'on l'enterre à côté d'une grande route, pas loin de la grande route, pour que quand les gens passent, les voyageurs passent par là et qu'ils voient la tombe, ils se disent, ça c'est la tombe de Amr ibn As, rahimahullah, pour dire tout simplement que Dieu le couvre de sa miséricorde, pour que les gens prient pour lui. Il a demandé que sa tombe soit non loin de la grande route. Alors que Omar ibn Abdelaziz a demandé qu'on l'enterre quelque part dans un champ et que 3 ans plus tard, qu'on nivelle le sol et qu'on cultive, qu'on l'oublie. Ce n'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son rapport direct avec Dieu. Alors, donc, voilà cet homme qui a vécu à un certain moment donné et qui a véritablement été un exemple, a créé au niveau de l'État un exemple de stabilité politique et sociale. Tout cela va donc de la foi, dépend de la foi, du rapport que nous gardons avec Dieu. Il y a une question qui dit ici, qui est pertinente, qui dit qu'il y a des pays non musulmans qui ont plus de stabilité que des pays musulmans. Comment expliquer cela? Cette question a 2 volets. D'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par stabilité? Je pourrais dire ici que dans les pays occidentaux, c'est vrai, dans la plupart des pays occidentaux qui ont réussi à se doter d'un système politique que nous connaissons, la démocratie, les parlements, etc., il y a une stabilité politique. Mais cette stabilité politique qui devait être un instrument, un moyen de réaliser la stabilité sociale n'a pas atteint ses objectifs. Dans les 99,99% des cas, les pays les plus stables sur le plan social, c'est l'objectif dont je parle, qui doit être l'objectif de la stabilité politique, c'est la stabilité sociale. Les pays les plus stables socialement parmi les pays occidentaux, ce sont les pays scandinaves. Mais ces pays-là, pourtant, sont rongés par le même mal. Par le même mal, puisque ce sont des pays qui ne vivent pas dans la transcendance divine, qui n'ont pas un ordre conforme à l'ordre de Dieu. La drogue, l'alcoolisme, la criminalité, la sexualité désordonnée, l'homosexualité, prévalent dans ces sociétés. Ce sont des sociétés donc qui sont malades. Donc sur le plan social, on ne peut pas parler de stabilité, ce n'est pas possible. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est faire commettre une erreur que de prendre pour modèle de société musulmane n'importe quelle de nos sociétés musulmanes actuelles. C'est une erreur. Les sociétés musulmanes actuelles, les pays musulmans d'aujourd'hui ne sont pas du tout des exemples de la matérialisation du projet de société de l'islam. Donc prendre ces pays-là ou ces sociétés musulmanes comme exemple revient à commettre une erreur lorsque nous cherchons le modèle de l'islam. Et pour preuve, à l'OCI, nous avons entre 55 et 56 États membres. C'est 55 ou 56 États membres de l'OCI. Si vous cherchez parmi ces États membres un pays qui applique le système politique, social, culturel, éducatif, administratif de l'islam, vous ne trouverez pas plus de 2 sur 55 ou 56 États membres. Tous les pays musulmans vivent tous les autres pays musulmans vivent sous un système non islamique, donc occidental. Vous avez vu l'autre jour, l'Égypte a fêté le millénaire en construisant des nouveaux pyramides. C'est-à-dire qu'il y a des efforts intenses qui sont menés là-bas pour revivifier la civilisation pharaonique. C'est comme si les gens ont une courte mémoire. ce même Pharaon qui a été détruit par Dieu, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, Dieu nous dit qu'il est dans l'enfer, que tous les matins et tous les soirs, on l'expose à l'enfer. An-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yawma yaqumu as-sa'a wa yawma taqumu as-sa'ati adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. C'est ce que Dieu nous dit. Pharaon a été détruit pour qu'il soit pour nous un signe. Dieu a dit dans le Coran: "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Au moment de détruire Pharaon, en l'engloutissant dans les flots de la mer Rouge, Dieu a dit: aujourd'hui, nous n'allons te sauver que par ton corps inerte, mort, pour que tu sois un signe pour les générations qui viendront après, notamment les Égyptiens eux-mêmes, puisque c'est chez eux, les pyramides sont là, les sarcophages sont là devant leurs yeux. Cet homme-là qui a déclaré qu'il était Dieu, « Wa ana rabbukum al-a'la », c'est ce qu'il avait dit, « Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-oula » Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Dieu a dit que Dieu l'a détruit pour qu'il soit un signe pour les gens qui sont doués de bon sens, pour les gens qui peuvent craindre Dieu. Il y a les Occidentaux qui veulent ramener cette civilisation tout simplement pour évacuer la civilisation de l'islam. Des vestiges de civilisation qui sont partis, que Dieu a détruites. On veut les ranimer, les revivifier, pour remplacer une civilisation encore vivante et dynamique qui est la civilisation de l'islam. En islam, ce n'est pas des vestiges que nous avons en Égypte et ailleurs dans le monde musulman. Nous avons des mosquées qui sont vivantes, qui remplissent leur mission. Nous avons une civilisation qui est là, qui vit, n'est-ce pas, qui est dynamique. Ce n'est pas comme les civilisations pharaoniques ou la civilisation athénienne ou la civilisation romaine, où ce sont des vestiges. Quand vous allez à Athènes pour visiter par exemple les colonnes ou bien les vestiges de ces colonnes qui sont à Athènes, n'est-ce pas, ou le Colisée de Rome, etc., ça a plus son sens pour vous qui êtes touristes lorsque les vestiges restent tels qu'ils sont, c'est-à-dire à moitié cassés, brisés, etc. Mais dès qu'on le reconstitue, ça perd sa valeur touristique. C'est pour dire que ce sont des civilisations qui sont mortes. On ne peut mieux apprécier ces vestiges que lorsque ces civilisations-là restent mortes, que lorsque les vestiges restent détruits, cassés à moitié ou brisés. Mais dès qu'on essaie de les reconstituer, ça perd sa valeur touristique. C'est pour dire que ces civilisations, ça n'est fini d'eux. Ce sont des civilisations que Dieu a détruites parce qu'ils étaient des prévaricateurs, ils étaient des idolâtres. Vous connaissez la mythologie grecque, avec les Zeus, les Athéna et autres. Cette multitude de divinités sur le mont Olympe. La même chose que l'on retrouve, qui se trouve chez les Romains, qui se retrouve chez les Grecs avec des appellations différentes. Ces gens-là qui ont combattu Dieu, qui ont désigné des associés à Dieu, Dieu les a détruits, leurs civilisations sont parties. C'est la même chose pour Pharaon. Donc la civilisation, c'est pour dire que nous, le monde musulman, on ne tire pas les leçons. C'est parce que nous avons laissé tomber l'islam que nous sommes dans l'instabilité politique et sociale. Revenons donc à l'islam, nous verrons que les choses vont changer. Donc on ne peut pas comparer les pays non musulmans qui ont leur relative stabilité à des pays musulmans qui n'appliquent pas l'islam. Donc c'est l'explication que l'on peut donner à cela. Vous ne pouvez pas trouver une communauté où on applique véritablement l'islam tel qu'il a été appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où nous n'aurons pas plus de stabilité, plus de justice sociale, plus de responsabilité, de transparence dans la gestion de la cité que tout l'ensemble des autres communautés. Parce que cette fois-ci, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons parce que nous recherchons le visage de Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui un pays stable politiquement, économiquement et socialement? Bon, politiquement, nous avons donné les exemples, mais socialement, parce que la plupart, les 99% des pays du monde n'appliquent pas les règles authentiques de stabilité politique et sociale qui est donc la voix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous assistons. Vous avez vu il y a quelques mois ce qui s'est passé en Turquie, parce que nous avons dit au début que l'instabilité peut venir des calamités naturelles que Dieu envoie pour punir les gens. Ce qui s'est passé en Turquie, au moment où au Parlement, une jeune femme musulmane qui porte le voile, qui a été élue députée, on lui interdit d'être députée. On lui retire sa nationalité simplement parce qu'elle a porté le voile qui, pour eux, pour ces gens-là, symbolise l'islam. Et en moins d'un an, en quelques mois, Dieu a envoyé quelque chose qui est un signe pour les musulmans, pour les croyants. Ce tremblement de terre tel qu'on n'en a presque jamais vu dans l'histoire moderne, en tout cas de l'humanité, ne peut venir que de cela. Combattre la voie de Dieu. Bismillah. Calamité naturelle. Au moment même où on est en train de fêter le troisième millénaire, où on a pris toutes les dispositions, les feux d'artifice ont été préparés, tout. C'est précis, et Dieu a fait que ça coïncide avec l'hiver. Quand vous ouvrez la télévision, la nuit même du réveillon, vous avez vu, quand vous ouvrez la télévision, toutes les chaînes de télévision d'Europe, vous prenez CNN, vous prenez TV5, toutes les télévisions, vous voyez qu'on ne parle que de ces calamités naturelles. Les ouragans, le froid, la neige, des gens qui sont morts, tel village qui a été inondé par les ruissellements ou le dégel, etc. Donc des problèmes et des...